Je devais pas toucher, mais c'est bon. Je vous invite à lire, à suivre la lecture dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Ce n'est pas le livre le plus facile à dire, mais il est très intéressant. Première aux Thessaloniciens, c'est le chapitre 5, et nous lirons les versets 1 à 11. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11, je lirai dans la version Parole de vie. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité », alors tout à coup ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui boivent trop, boivent la nuit. Mais nous, nous appartenons au jour, alors soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat, mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, afin que, vivant ou mort, nous vivions unis à lui. Alors encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Celui-là, je l'enlève. Voilà. Sinon, ça va me faire loucher. Voilà. Excusez-moi, hein. Voilà, c'est bon. Aujourd'hui, on ne parle plus du retour de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Des fois, on le dit, hein, des fois j'entends ça, peut-être que vous le pensez, peut-être que vous le dites, peut-être que vous l'avez entendu. Moi, j'ai entendu parfois en dire, aujourd'hui, dans les églises, on ne parle plus du retour de Jésus. Alors, d'une part, je ne suis pas tout à fait sûr de la chose. Et, par contre, c'est vrai qu'il y a certaines choses dont on parle plus ou moins dans les églises. On parle moins de calendrier ou de chronologie concernant le retour de Jésus, les événements, dans quel ordre, à quel moment, dans quelles circonstances, comment ça va se passer, avec plein de détails. Peut-être qu'on s'hasarde moins aussi à l'interprétation de certaines prophéties à la lumière d'événements contemporains pour essayer de dire, voilà, on en sent qu'on est... Le retour de Jésus est imminent, c'est pour demain, c'est pour tout de suite. Tout ça, c'est vrai qu'on en parle moins, et permettez-moi de le dire personnellement, je dirais tant mieux. Tant mieux parce que c'est aborder la question par le mauvais côté, du côté anecdotique. C'est oublier peut-être l'essentiel, et tant mieux parce que ces démarches-là ont, on le sait, fait dire parfois à la Bible ce qu'elle ne veut pas dire, utilise la Bible comme prétexte pour des interprétations plus ou moins farfelues, et puis on a dit des bêtises, hein, on a dit des bêtises avec de telles démarches. Alors, si on n'a plus ce type de discours dans les églises, moi je m'en réjouirais plutôt. Ce qui ne veut pas dire que nous ne parlons plus du retour du Seigneur, parce que là ce serait bien dommage. C'est au cœur de notre espérance de dire que Jésus, qui est mort, est ressuscité, est retourné auprès de son Père et il a promis qu'il reviendrait. C'est ce qui est au cœur aussi de ce texte de l'Épître aux Thessaloniciens que nous venons de lire. Et c'est donc bien une dimension de notre foi et de notre espérance qu'il faut conserver. Mais en conservant ce qui est important, l'essentiel, sans nous perdre peut-être dans certaines considérations secondaires, pour ne pas dire anecdotiques. Mais où se trouve l'essentiel? Quand on parle de la venue du Seigneur, où se trouve l'essentiel? Attendre le retour de Jésus, ce n'est pas essayer de deviner quand et comment il reviendra. On l'a fait, on le fera encore, rassurez-vous, ça continuera. Pourtant, c'est vrai que, on ne peut pas le dire, hein, notre monde aujourd'hui va mal. On est en pleine crise, les peuples sont en ébullition, les tensions renaissent, on reparle de la bombe atomique en Iran, les tensions israélo-palestiniennes sont de nouveau en train de remonter, il y a plein de chômage, il n'y a pas beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de choses catastrophiques, il y a même certains qui disent que selon le calendrier maya, le 21 décembre 2012, ce sera la fin du monde. Bref, on est d'accord, notre monde va mal. Est-ce que pour autant c'est pire qu'avant? Est-ce que c'est pire au niveau de tension qu'au cœur de la guerre froide quand on craignait une guerre nucléaire imminente? Est-ce que c'est pire que pendant les deux guerres mondiales, début du XXe siècle, avec la barbarie nazie? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est pire qu'au Moyen-Âge, avec les conflits, avec les pestes, les maladies qui décimaient les populations? Est-ce que c'est pire qu'au paroxysme la persécution des chrétiens au cœur de l'Empire romain? Est-ce que c'est pire que ça? Je suis pas sûr, hein. Pas évident de dire que c'est pire. Alors, évidemment que notre monde va mal. On pourrait même dire que ça fait 2000 ans, ou même plus que 2000 ans d'ailleurs, qu'il va mal. Et évidemment que par rapport à ce constat-là qui est indéniable, nous avons besoin d'avoir une espérance, et que cette espérance, nous l'avons en Jésus, dans l'espérance de son retour. Et ce que nous croyons, nous, c'est de dire que la solution ultime sera dans ce retour, lorsque le Seigneur viendra et établira son règne de paix, de justice. C'est notre espérance, c'est ce que nous attendons. Mais est-ce pire aujourd'hui qu'hier? Vous savez, la question du retour, de la date, du moment du retour du Seigneur, c'est pas ces dernières années qu'on se la pose, hein, c'est aussi vieux que l'Église, cette histoire. Puisqu'elle apparaît déjà dans le Nouveau Testament, et cette première aux Thessaloniciens, vous savez, c'est une des plus anciennes épîtres de Paul. Certains disent qu'elle est peut-être même la première. Donc c'est un des plus anciens écrits du Nouveau Testament. Et dans ces écrits-là, qui, quelques années seulement après la mort et la résurrection de Jésus, les chrétiens s'inquiétaient. Il dit, mais le Seigneur doit revenir, il y a des frères, des sœurs qui sont morts, et il n'est toujours pas là. Pourquoi est-ce qu'il tarde à revenir? Qu'est-ce qui se passe? Et l'apôtre Paul doit rassurer les chrétiens de Thessalonique pour leur dire, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Même ceux qui seront morts ressusciteront, c'est notre espérance. Mais cette question qui est dans l'esprit des croyants de tout temps, c'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul passe très rapidement dessus. On pourrait dire même qu'il écarte ces questions en deux temps, trois mouvements. Au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous savez, mais vous savez très bien qu'il va revenir comme un voleur. Alors arrêtez de vous tracasser avec ça. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'on ne peut pas savoir. Jésus lui-même l'a dit. Il a dit que personne ne peut savoir les temps et les moments. Le jour, le moment, la date, ne vous tracassez pas avec des choses que vous ne pouvez pas savoir. Et il ajoute même en disant, c'est même quand les gens n'y penseront plus que ça arrivera. Quand on dira quelle paix, quelle sécurité, alors là ça tombera tout d'un coup. Alors, arrêtez de vous tracasser, de vous inquiéter avec ces questions-là. L'essentiel est ailleurs. C'est autre chose qui est important. C'est pas tellement de savoir quand, comment, dans quelles circonstances, dans quelle chronologie le Seigneur reviendra, mais de savoir dans cette attente. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui? Dans l'attente de ce jour qui est notre espérance, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est ce que Paul aborde dans la deuxième partie de ce chapitre. Et on pourrait dire qu'attendre le retour de Jésus, c'est se mettre au travail. C'est poser des signes dans notre monde du royaume qui vient. Ce qui est vraiment important, est introduit ici, au verset 4, lorsque Paul dit « Mais vous, vous », et il nous le dit à nous quelque part, « Vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. Vous, vous devez avoir une attitude différente. Vous n'êtes pas surpris par, ce jour qui doit venir comme celui d'un voleur. Au contraire, vous devez vous mettre au boulot. » Le verset 8. « Nous, nous appartenons au jour. Alors soyons sobres, prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat ou comme cuirasse, mettant comme casque l'espérance d'être sauvés. » Voilà ce que nous devons faire. Nous mettre au boulot. Revêtir les armes, l'armure et partir au combat. Notre monde va mal, c'est vrai. Mais serait-ce juste en tant que chrétien d'avoir un regard désenchanté, désabusé, de loin? On regarde, ben oui, il va mal, notre monde va mal, il va à sa perte, laissons-le. Et on regarde le navire coulé comme ça, sur la berge, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste comme attitude de se détacher? Est-ce qu'au contraire, nous ne sommes pas appelés à aller là où ça va mal? La foi, l'espérance, l'amour que nous devons revêtir, c'est ce qui est ici dans ce verset, hein. Revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour, et puis le casque de l'espérance d'être sauvé. Cette foi, cette espérance, cet amour, ces vertus chrétiennes fondamentales que Paul avait louées chez les chrétiens de Thessalonique dans son introduction, nous avons médité il y a quelques semaines, ça, elles réapparaissent ici, et c'est ce que nous sommes appelés à apporter dans notre monde. La foi, l'espérance, l'amour. C'est beau de chanter l'amour de Dieu dans nos cantiques, de déclarer notre foi dans de belles prières. C'est formidable, ce que nous faisons chaque dimanche ici entre ces quatre murs. Mais la foi, l'espérance, l'amour, si elles restent entre ces quatre murs, à quoi servent-elles? La foi, l'espérance et l'amour, n'est-ce pas notre monde qui en a besoin aussi? Et qui va apporter cette foi, cette espérance et cet amour dans notre monde? Sinon nous, elles ne viendront pas toutes seules. Notre place, le dimanche matin, c'est ici, sans doute. Et c'est bien de venir au culte. On a besoin de se retrouver. On a besoin d'être ensemble pour chanter le Seigneur, pour écouter sa parole, pour prier ensemble. On en a besoin. Mais tout le reste du temps, quand on n'est pas réunis, nous sommes là, armés de la foi, de l'espérance et de l'amour pour l'apporter là où il en a, là où on en a besoin. On peut aller au loin, bien sûr, on peut aller au loin pour aller au secours de peuples démunis qui ont besoin d'une aide. On peut s'engager dans des œuvres, des actions humanitaires, caritatives, de soutien, d'écoute, d'accompagnement. Bien sûr, faisons-le, c'est très bien. Mais souvent, vous savez, il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous, sur nos lieux de vie, dans notre lieu de travail ou lieu d'études. Parmi nos voisins, dans nos familles, sur nos lieux de loisirs, les gens que nous côtoyons. Il suffit souvent d'ouvrir les yeux pour voir à côté de nous quelqu'un qui a besoin de foi, d'espérance et d'amour. Quelqu'un que nous pouvons, à qui nous pouvons témoigner et apporter concrètement un peu d'amour, un peu d'espérance, un peu de foi, de confiance. C'est à cela que nous sommes appelés. Parce que semer des semences, des graines de foi, d'espérance et d'amour dans notre monde, c'est semer des semences du royaume qui vient. Des semences du royaume de Dieu. Notre espérance, c'est le retour du Seigneur. Mais pourquoi? Pour qu'il vienne établir le royaume de Dieu sur la terre. Un royaume de paix, de justice, d'amour. Notre travail, notre job, notre boulot maintenant, si nous sommes animés de cette espérance, c'est de semer des graines de ce royaume dans notre monde. De le faire par nos paroles, de le faire par nos prières, de le faire par nos actes concrets d'amour, de solidarité, d'entraide, d'écoute, d'accueil. C'est à cela que nous sommes appelés, pas à nous battre sur les chronologies ou les calendriers eschatologiques sur le retour de Jésus, mais à témoigner de l'amour de Dieu là où nous sommes. Soyons sobres, dit Paul ici. C'est dans le prolongement de son image de la nuit. Vous savez, ceux qui sont dans la nuit s'enivrent la nuit. Et nous qui sommes, même si nous sommes dans la nuit, nous devons rester sobres. C'est un appel à garder la tête sur les épaules, à rester lucide dans notre monde. Vous savez, quand on est sous, on parle beaucoup, hein, on chante, mais c'est pas très constructif, ça ne mène à pas grand-chose. Ça peut même être dangereux, hein, si on prend le volant ou autre, on est dangereux pour soi et pour les autres. Être sobre, c'est réfléchir, rester lucide, et on a besoin de cette lucidité pour être pertinent dans notre façon d'être, des témoins de la foi, de l'espérance et de l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Alors simplement pour conclure, les chrétiens, les croyants, ne devraient pas jouer les oiseaux de malheur dans le monde, parce que nous avons au contraire une bonne nouvelle à annoncer. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il est maintenant auprès du Père, qu'il intercède pour nous. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il reviendra nous chercher et que nous pouvons nous préparer à ce retour. Ça, c'est des bonnes nouvelles que nous sommes appelés à apporter dans notre monde qui a besoin de cette bonne nouvelle. Alors, plutôt que de se retirer du monde et de regarder couler le navire, il s'agit de s'équiper pour aller au front, pour se mettre au travail. C'est bien ce que Jésus a fait. Dieu n'a pas regardé notre monde couler. Il a envoyé son Fils dans ce monde, qui est venu apporter l'amour de Dieu, qui a été rejeté, qui est mort sur une croix. Mais il est aussi ressuscité. Et cette puissance de résurrection, elle peut être à l'œuvre en nous, par l'Esprit de Dieu. Et c'est dans cette puissance de résurrection que nous puiserons les forces pour être, de manière authentique, par la grâce de Dieu, des témoins de son amour, des témoins de cette espérance et de cette foi qu'il a placée dans notre cœur. Amen.